Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant vieillir. Alors, vous aurez quelques témoignages authentiques. Vraiment, c'est quelque chose qui va aider tous ceux qui ont un âge avancé comme le mien. C'est l'étude numéro 2. Chers amis, nous devons combattre la solitude. L'isolement n'est pas la solitude absolue, qui est cosmique, car l'autre solitude, la petite solitude, elle n'est que sociale. Voyez-vous, même ceux qui, en apparence, vivent la vieillesse dont ils avaient rêvé, reconnaissent que personne n'échappe complètement au sentiment de vide et de solitude. Combien de personnes âgées ne dînent-elles pas seules tous les soirs? Et parfois, ils ont même plus envie de manger. Et combien ne vivent-elles pas seules dans des résidences, soutenues financièrement par leurs enfants qui sont souvent très loin? C'est peut-être le cas pour vous qui écoutez ce CD. Il y a en chacun de nous une aspiration de vivre en communauté, à partager ce que nous avons avec les autres. Dieu nous a créés être de relation et non pas ermite. Que nous soyons jeunes ou vieux, que nous soyons malades ou bien portants, nous sommes faits pour vivre en lieu et en lien avec les autres. Et ces liens sont une source de plénitude dans notre vie. Nous nous en rendons compte naturellement. Ceux qui ont vécu de fortes expériences communautaires dans la vie professionnelle ou associative, par exemple dans des mouvements ou des syndicats, en gardant longtemps la nostalgie, oui, ils en gardent pendant des années cette nostalgie. Voyez-vous, la camaraderie, les souvenirs d'école, tout cela tisse des liens parfois plus forts même que ceux de la famille biologique. À mesure qu'une société se fragmente, ce sont bien souvent les personnes âgées qui souffrent le plus. Elles ressentent douloureusement l'absence du lien familial et de la communauté. Selon ma propre expérience, il nous faut vivre dans un cadre communautaire où non seulement l'on s'occupe de vous, mais où vous pouvez continuer de pratiquer, d'aimer et de partager. Dans l'Épître aux Galates, saint Paul nous rappelle « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Galates chapitre 6, verset 2. Cela veut dire qu'il nous faut donner à manger à ceux qui ont faim, de vêtements à ceux qui sont nus, et des soins à ceux qui sont malades. La vieillesse, elle ne devrait pas être assimilée à un retrait de la société. C'est pas ça qui est sain pour la vieillesse. Il faut cependant reconnaître que certaines personnes âgées contribuent à renforcer le stéréotype social de leur inutilité. Elles pourraient se réjouir d'une vie plus calme et pleine de sens, des possibilités nouvelles qui s'ouvrent à elles pour enrichir la vie des autres. Mais nombreuses sont celles qui accélèrent leur processus de vieillissement en restant tout simplement entre elles, en regardant la télévision des journées entières, en limitant leur lecture aux journaux, à sensations, à des tas de magazines, en abusant de médicaments, au risque de sombrer dans la dépression ou même l'alcoolisme. Dans toutes les villes, des personnes très âgées vivent seules, handicapées, sans soutien familial, social et financier suffisant. Leurs enfants et petits-enfants sont loin et dispersés ou trop petitement logés, trop étroitement logés pour accueillir un parent âgé. Mais vieillir dans la dignité, cela dépend beaucoup de l'existence de la famille multigénérationnelle ou de son équivalent parmi les voisins ou la communauté qui remplace alors la famille élargie. Afin de lutter contre ces problèmes, il faudrait que les membres des églises forme à travers tout le pays des associations interconfessionnelles, pourquoi pas. Celles-ci étaient chargées autrefois de recruter et de former des bénévoles, parmi lesquels beaucoup de retraités eux-mêmes, afin de subvenir aux besoins de personnes lourdement handicapées et sans aucune aide sociale suffisante. Ces bénévoles retrouveraient leur vocation spirituelle, car toutes les grandes religions exhortent leurs adeptes à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Les membres bénévoles de ces associations s'occupaient du courrier des personnes âgées, s'assurait que les chèques étaient déposés à la banque, que les factures étaient payées et que le réfrigérateur était suffisamment bien garni. Et des tâches aussi simples que de conduire quelqu'un chez le médecin, faire des menus travaux de réparation dans la maison, dans l'appartement, ou changer une ampoule, tout cela donnait à ceux qui les accomplissaient un supplément de sens à leur vie. Ces attentions réveillaient chez ces personnes âgées le sentiment de leur valeur. Elles ne se sentaient plus abandonnées. Elles pouvaient prendre un bain chaud, être coiffées, bien habillées, en un mot, elles retrouvaient leur dignité. Et tout le monde, évidemment, n'a pas une Sabine sous la main pour faire cela, c'est vrai. Enfin, on se soucie pas toujours, comme on devrait, des personnes d'un certain âge. Voyez-vous, certaines auraient refusé une aide sociale, ça existe, mais là, elles accueillent avec reconnaissance les bénévoles en qui sont envoyés par les paroisses. L'un d'eux a écrit du reste que avant de rejoindre cette association, il multipliait les activités dans ses journées, et cela lui avait permis même de passer de bons temps, des bons moments, avec ses petits-enfants. Mais depuis qu'il s'était engagé dans une association, il se sentait investi d'une mission toute particulière. Oui, quelqu'un en effet, maintenant dépendait réellement de lui. Et ces associations ne font rien d'extraordinaire, mais rendent de grands services, avec des gestes simples, mais importants, empreints d'amour, elles se mettent au service des autres. Oui, des personnes peuvent avoir travaillé pendant des années, avoir assumé des responsabilités importantes et ont eu de nombreuses relations et puis tout à coup sombrent dans l'oubli avec l'âge. Dieu ne mesure pas comme nous la valeur d'une personne, heureusement. Le temps qui passe pourrait nous apprendre à repenser notre contribution à la société humaine. L'important, ce n'est pas d'être en vue ou d'étaler nos succès devant tous les autres. Ce n'est pas ça l'important. Voyez-vous, chers amis, peut-être une voisine âgée a-t-elle besoin d'être accompagné à un rendez-vous ou de savoir par une carte le jour de son anniversaire et qu'on ne l'oublie pas. C'est aussi simple que ça. Ce n'est que lorsque nous appesantissons sur notre passé, mesurant notre valeur de ce que nous étions autrefois, que notre corps nous paraît décrépit. Si nous nous concentrons sur ce que nous pouvons donner plutôt que sur nos limites, il nous sera plus facile d'accepter notre nouveau rôle. Je répète, parce que c'est important, si nous nous concentrons ou si nous pouvions nous concentrer sur ce que nous pouvons donner plutôt que sur nos limites à nous, eh bien, il nous serait plus facile d'accepter notre nouveau rôle. La crainte d'être un fardeau, cela, évidemment, peut nous faire hésiter à nous reposer davantage sur les autres. Pour Charlie, de tempérament ouvert et exubérant, eh bien, cela ne posait aucun problème. Mais nous n'avons pas tous la même assurance. Peut-être votre famille à vous a-t-elle fait sentir ou a-t-elle vous fait sentir que vous étiez pour elle un poids? Ou avez-vous été mis à la porte peut-être de votre entreprise? Cette entreprise qui vous employait alors que vous pensiez y être encore bien utile, voilà que tout à coup, on vous fait comprendre qu'on n'a plus besoin de vous. Je connais des personnes profondément aimées et dont on s'occupe bien et qui, malgré tout cela, ont l'impression d'être un fardeau parce qu'elles ne peuvent rien faire par elles-mêmes. De tels sentiments de culpabilité sont bien réels, mais ils peuvent être surmontés, surtout si nous trouvons l'humilité d'accepter pleinement la place différente que nous occupons maintenant. C'est ce qu'il a découvert un certain Hans. Hans, lorsque la maladie lui a ôté de ses capacités et qu'il lui a fallu, après une vie qui a été consacrée à enseigner et à aider les autres, être obligé d'accepter d'être aidé à son tour, il a pu trouver de l'aide dans le soutien de frères et de sœurs dans la foi, mais tout le monde n'a pas cette chance. Les débuts furent difficiles, mais au fil du temps, la dépression et son sentiment d'être inutile ont fait place à la joie. Et Hans aimait beaucoup les langues. Et c'est ainsi que, titulaire de plusieurs diplômes de troisième cycle, il était parti enseigner l'anglais à l'étranger, tels que la Corée, au Japon, dans les îles du Pacifique et en Amérique centrale. Sa passion des langues n'égalait pas, cependant, celle qu'il vouait aux nombreux enfants à qui il enseignait également. Après de nombreuses années, c'est cet amour pour ses petits élèves qui, hélas, lui a coûté sa santé, abrégeant même sa vie, car reposant si souvent son coude sur le bureau des enfants en s'inclinant fortement sur laquelle il se penchait pour les aider, il finit par être atteint, ont-ils dit les médecins, d'une bursite qui s'infecta. Et l'infection, malheureusement, a gagné son cœur ainsi que ses poumons et il fut amené aux urgences où il décéda. Oui, c'est vraiment, il y en a qui donnent de leur vie entièrement et parfois tellement qu'ils laissent leur propre vie. Alors peu importe nos succès ou notre indépendance passée, car lorsque nous prenons conscience du déclin de nos facultés, il nous faut nous tourner vers les autres. On n'a pas le choix. Alors nous trouverons la raison d'être dont nous avons évidemment tellement besoin. Si nous avons le bonheur de faire partie d'une église chrétienne, d'une association de bienfaisance avec des fondements saints, eh bien évidemment, nous pourrons échapper à une solitude totale. Chers amis, nous gagnons notre vie avec ce que nous recevons, mais nous lui donnons un sens, surtout avec ce que nous donnons. N'oublions jamais cette maxime. Et c'est lorsqu'ils atteignent la vieillesse que la plupart des gens se mettent à réfléchir à son sens ou à chercher une raison d'être et des réponses à leurs questionnements. Ils se demandent comment rendre les années qu'il me reste à vivre plus agréables et plus excitantes. Ne vaudrait-il pas mieux, chers amis, de se demander comment Dieu peut-il utiliser mes dernières années pour son service à la place de seulement penser à moi-même égoïstement, de vouloir faire des excursions multiples, de voir les musées, de voir le monde. Voyez-vous, peut-être Dieu se sert-il au mieux de nous lorsque nous donnons vraiment, plutôt que lorsque nous recevons. Car donner, c'est parfois quelque chose de miraculeux qui peut susciter des choses imprévisibles. Quelles que soient les circonstances de notre vie, la vieillesse nous donne des occasions jamais encore rencontrées de donner. J'ai moi-même été le témoin plusieurs fois de choses importantes que peuvent accomplir des personnes de mon âge. Je pense notamment à ces grands-mères qui sont le ciment d'une famille, à des grands-pères comme moi, membre bénévole de comités ou de conseils d'administration, et à tous ceux qui donnent beaucoup de leur temps à leur église, et parfois à des associations d'anciens ou à la soupe populaire de leur quartier. Bien souvent, ils s'occupent aussi de leurs petits-enfants, dont les parents ne peuvent pas toujours, se permettre les frais d'une garderie. Voyez-vous, les personnes âgées rendent vraiment des services inestimables qui ne se mesurent pas en termes de profit ou en termes de productivité ou de rendement. Il ne s'agit pas toujours d'argent. Dieu ne nous demande jamais « Combien as-tu gagné aujourd'hui ?» ou bien « Quelles sont tes grandes réussites ?» ou encore « As-tu été une personne d'influence ?» Non, non, non. Ce qu'il y a de plus important, voyez-vous, dans la vie, c'est de donner et de servir. Et Jésus, lui, il nous a montré le chemin de tout cela. Un autre service précieux que nous pouvons rendre, qui nous vient de notre expérience, des nombreuses questions difficiles parfois que pose la vie. Par exemple, le fameux Job dans la Sainte Bible, il affirme que c'est aux personnes âgées qu'est attribuée la sagesse, une longue vie et synonyme de discernement. Job chapitre 12, verset 12. Donc la jeunesse est parfois auréolée d'une sorte d'invincibilité, mais les échecs et les espoirs inaccomplis ont vite fait de briser cette auréole. Quand un jeune se met en route sur le chemin de la vie et qu'il doit faire face aux premiers échecs, nous pouvons être pour lui une source d'équilibre et de réconfort. Qu'ils en aient conscience ou non, eh bien ceux qui ont affronté beaucoup de tempêtes possède, croyez-moi, une grande sagesse. Parfois, à un certain âge, il arrive que l'on se tourne vers le passé, regrettant les années où l'on était jeune, où l'on jouissait d'une énergie fraîche, où l'on faisait des projets pour l'avenir. Ainsi, considérant cette phase de la vie comme le temps du déclin, le regard se voile parfois de tristesse. Conscient des difficultés que comporte notre âge, je voudrais vous dire avec une conviction profonde, il est beau d'être âgé, surtout si nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, parfois les journées semblent longues et vides et nous avons des difficultés à peu pouvoir s'engager et de faire peu de rencontres parce que nous avons la peine à marcher, comme c'est mon cas avec une canne. Eh bien, ne vous découragez jamais. Vous êtes une richesse pour la société malgré tout, même dans la souffrance et dans la maladie. Et cette phase de la vie est un don aussi pour approfondir notre rapport avec Dieu. N'oubliez pas que parmi les ressources précieuses que vous avez, il y a la ressource essentielle de la prière. Devenez intercesseur auprès de Dieu, prions avec foi et avec constance, Priez pour l'Église. Priez pour moi aussi. Priez pour les besoins du monde, pour les pauvres, pour qu'il n'y ait plus de violence dans le monde. La prière des personnes âgées, elle peut protéger le monde en l'aidant de manière peut-être plus efficace que l'agitation de beaucoup de choses. Il y a quelques années, une église cherchait avec peine les moyens de toucher ces jeunes. Écoutez bien la suite, car ça donne à réfléchir. Les responsables ont alors eu l'idée de mettre en place des compagnons de prière. Et pendant une année, une personne âgée a été associée à un jeune. Ils ne se rencontraient pas et la personne âgée n'avait que le prénom du jeune homme ou de la jeune fille. Et elle priait pour lui ou pour elle chaque jour. À la fin de l'année, croyez-le ou pas, la paroisse a offert un repas au cours duquel les priants et les jeunes pour qui on avait prié se sont rencontrés. Ils m'ont dit qu'ils avaient été stupéfaits de voir à quel point cette idée toute simple avait créé un lien authentique et chaleureux entre jeunes et vieux. Il peut donc arriver que de telles actions mènent à des amitiés, des véritables amitiés, et souvent durables. Mais cela n'est pas toujours possible, évidemment. Il n'empêche, nous pouvons tous toucher le cœur de chaque personne que nous rencontrons, même si cette rencontre est brève. Oui, pourquoi ne faisons-nous pas un meilleur usage de notre temps? N'avons-nous pas conscience de la brièveté de notre vie? Le bien le plus précieux que nous puissions posséder, c'est celui de la relation que nous avons avec les autres et avec Dieu. Nous devrions chercher une véritable rencontre avec chaque personne qui croise notre chemin. J'entends par cela rejoindre la personne dans ce qu'elle a de plus profond. Et de telles rencontres ne s'effacent pas avec le temps. Elles restent inscrites en nous et leur valeur ne s'altère pas. Chaque personne que nous rencontrons est une occasion de nous rapprocher un peu plus de la vérité. Si c'était là tout ce que nous pourrions faire dans notre vieillesse, ce serait déjà pas mal, mais ce rôle peut être difficile à accepter. Même l'apôtre Paul souhaitait mourir et être avec le Christ, tout en voulant aussi rester ici-bas pour aider ceux qu'il connaissait et qu'il aimait. Notez Philippiens chapitre 1, versets 22 à 24. Quel que soit le tant qu'il nous reste à vivre, nous devrions l'utiliser et guider les autres vers une relation plus profonde, plus priante surtout avec Dieu. C'est peut-être là la plus belle façon de donner qui soit à notre portée. Dorothée Hildebrand, une voisine depuis bien des années, portait allègrement ses 70 ans quand elle a été tout à coup hospitalisée pour une opération du cœur assez banale. Mais, à la suite de complications imprévues, elle mourut brutalement à l'hôpital. Quel choc pour sa famille! Pour sa famille qui s'attendait à la voir rentrer au bout de quelques jours. Et quelques semaines plus tard, le chirurgien en chef a écrit cette merveilleuse lettre. Le mari de Dorothée, il a écrit cette merveilleuse lettre au mari. Elle révèle cette lettre, combien la foi profonde de Dorothée en Jésus avait touché bien des personnes avec qui il avait été en contact. Voici la lettre, écoutez bien. Merci d'avoir pris le temps de m'écrire et de me transmettre vos amicales pensées, vous qui traversez une période particulièrement difficile. Votre lettre m'est précieuse et renforce ma conviction que, en tant que médecin, je n'ai pas le pouvoir de décision sur la vie ou la mort, car c'est Dieu qui décide de nous rappeler à lui. Dorothée était une personne merveilleuse. Elle était pleine de vie, et quand je lui parlais, je sentais combien elle voulait transmettre son enthousiasme pour la vie à ceux qu'elle rencontrait. Allongée sur son lit d'hôpital, entourée de toute sa famille et de tant d'amis qui chantaient et qui priaient, je me rendais compte qu'elle avait touché bien des cœurs. Je voulais tellement qu'elle guérisse, parce qu'il me semblait que sa disparition laisserait un très grand vide. Aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas un vide qu'elle a laissé. Même si je suis sûr que sa présence manque à ceux qui l'aimaient, l'héritage qu'elle vous a laissé à vous et à vos enfants, c'est sa joie, c'est sa passion pour la musique et pour son amour pour les autres. C'est ce qui m'a aidé à accepter sa disparition. Et je ne peux terminer cette lettre sans vous dire combien votre foi et la foi de votre famille nous ont touchés beaucoup ici à l'hôpital. Avant de voir ce qui se passait autour du lit de Dorothée chaque jour, nous n'avions encore jamais été le témoin de l'expression d'un tel amour de Dieu et de l'amour que l'on peut se porter les uns envers les autres. S'occuper des malades, cela finit par être lassant et surtout épuisant. Et il nous arrive à nous les médecins de nous couper souvent de ce que nous ressentons. Bien des larmes ont coulé dans le service après la mort de Dorothée. Cela n'arrive pas souvent. Elles ont été versées parce que nous avons été vraiment comme renouvelés à son contact, car elle qui nous a aussi rappelé ce pourquoi nous sommes ici. Alors merci, merci pour ce renouvellement. Voyez-vous, chers amis, même agonisant, nous pouvons mener les autres à Dieu. La façon dont nous vivons surtout, souvent, notre vie et que nous faisons face à la mort peut avoir une forte impression sur tous ceux qui nous laissent derrière nous. Henry Ward, un pasteur qui lutta pour l'abolition de l'esclavage dans les années 1850, il évoque cela dans les réflexions suivantes. Lorsque, au crépuscule, le soleil disparaît à l'horizon, il laisse pour quelque temps des traces de son activité et le ciel continue de rougeoyer pendant une bonne heure. de même quant à la vie d'un homme, d'une femme, bon, touche à son crépuscule, eh bien le ciel de ceux qui restent ici-bas en reste illuminé bien après qu'il a disparu à leurs yeux. Alors une telle personne ne meurt pas à ce monde, parce que lorsqu'elle s'en va, elle laisse derrière elle beaucoup d'elle-même, et morte, elle parle encore. Quel que soit notre âge, chers amis, ou notre état de santé, nous ne savons pas pendant combien de temps après notre mort nous toucherons la vie ou les vies de ceux qui nous entourent. Raison de plus pour demander à Dieu de nous aider à mettre les forces qu'il nous reste à son service. Chers amis, avant de terminer par la prière, je voudrais vous transmettre quelque chose que j'ai reçu dans mon cœur pour vous transmettre. C'est quelque chose que le Seigneur m'a donné pour vous encourager, mais même aussi pour votre enseignement personnel. Oui. Voici donc ce que j'ai reçu pour vous. Que vous dirais-je? Votre cœur est déchiré. Souvenez-vous qu'il est écrit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et bande leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Vous êtes donc de grands privilégiés. Dieu vous offre à partager ses plans et ses secrets, en effet, et il vous fait connaître ses desseins, alors que tant d'autres doivent avancer à tâtons. Pénétrez-vous donc bien de cette parole. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Saint Matthieu 6, verset 33. Ensuite, appliquez-vous à ne pas chercher d'abord ces choses, mais inlassablement celle de son royaume. Cette recherche est à l'opposé de vos habitudes à vous, les mortels. Vous pensez d'abord aux choses matérielles pour vous occuper ensuite des spirituelles. Il n'en va pas ainsi dans le royaume de Dieu. Les choses spirituelles devraient passer au premier plan et les matériels viennent ensuite. Ainsi donc, pour être approuvé matériellement, redoublez de zèle dans votre recherche des biens spirituels. Dieu en appelle à votre prière fervente, car il sait que l'homme n'acquiert la puissance et ne trouve la paix que dans l'ardente supplication et dans la tranquillité confiante qui en résulte. Et c'est pourquoi il a demandé à ses disciples de se faire un devoir de persévérer dans la prière incessante, selon Saint Luc chapitre 11, versets 5 à 13, et chapitre 18, versets 1 à 8. Alors ne vous lassez jamais de prier. Quand un jour l'homme verra de quelle façon merveilleuse sa prière a été exaucée, il regrettera profondément, oui, profondément, d'avoir si peu prié. La prière modifie tout. Elle recrée, elle agit irrésistiblement. Ainsi donc, priez sans cesse, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 7. Priez jusqu'à ne presque plus formuler de prière, parce que vous serez établis sur le roc de la foi absolue. Et pourtant, vous continuerez de prier, parce que la prière sera devenue une habitude telle que vous ne pourrez y résister. Priez surtout et toujours jusqu'à ce que votre prière culmine en louange. C'est la seule note sur laquelle devrait se terminer la vraie prière. Quand on se tourne vers l'homme, il y a amour fraternel et rire confiant. Quand on se tourne vers Dieu, la prière se termine par la louange. Et maintenant, chers amis, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, aie pitié de nous et de notre faiblesse, surtout lorsque nous nous présentons devant toi pour te bénir et pour te prier. Or, sans l'assistance de ton Saint-Esprit, nos cœurs ne savent et ne peuvent s'élever à toi. Notre attention ne saurait même se fixer pendant quelques courts instants. Nous sommes de feu pour les intérêts de ce monde, pour les vanités de cette vie, et nous sommes de glace pour toi, pour le salut que tu nous présentes, pour cette vie éternelle qui nous attend au-delà du tombeau. Nous agissons comme si toute raison, toute prudence était éteinte en nous, puisque nous ne pensons pas et nous ne cherchons pas avant toute chose à faire notre paix avec toi, et à travailler tandis qu'il fait encore jour et avant que la nuit vienne. Puissions-nous, par ton secours, sortir de cette déplorable langueur, puissions-nous veiller et prier afin d'être trouvés prêts à paraître devant toi. Puissions-nous faire un bon usage de ce jour que tu nous accordes encore et de passer dans la paix, l'obéissance et le recueillement. Nous t'invoquons, ô Seigneur, pour nos familles, nos amis, pour tous ceux qui souffrent et que tu visites par des épreuves. Affermis-nous donc dans une foi sincère et prépare-nous ainsi toi-même pour l'éternité, que notre prière parvienne jusqu'à toi, ô notre Dieu, au nom et pour l'amour de ton Fils bien-aimé, notre unique Sauveur et Seigneur. Amen. Et chers amis, encore toujours merci, merci pour vos prières, merci pour votre intérêt à ces études, et peut-être aussi, pourquoi pas, à propager la bonne nouvelle. Prions donc les uns pour les autres. Et si Dieu vous aime, et c'est le fait, c'est le cas, alors mon devoir c'est de vous aimer également de tout mon cœur. Et je vous embrasse tous. Au revoir et à demain matin pour la suite de cette série.